Mes frères bien-aimés, c'est un grand jour que nous célébrons aujourd'hui, à tel point que dans certains pays, c'est le 6 janvier que l'on offre les cadeaux et non le 25 décembre, à tel point que pour les orthodoxes, Noël se fête le 6 janvier et non le 25 décembre. C'est là quelque chose qui peut nous paraître surprenant, mais qui devient limpide si l'on considère le nom de cette fête, non pas le nom actuel, l'adoration des mages, mais le nom traditionnel, l'épiphanie du Seigneur. Le terme épiphanie signifie manifestation d'une réalité cachée, et dans notre cas, manifestation aux non-juifs de la rédemption cachée en Jésus. En effet, à partir de la venue des rois mages auprès de l'enfant Jésus, la bonne nouvelle du salut n'est plus connue des juifs seulement, mais est manifestée à toutes les nations, même aux païens. Eh bien, pour les orthodoxes, ce n'est qu'à partir de ce moment que Noël devient une bonne nouvelle, et c'est pas faux. Pour être vraiment bonne, une nouvelle doit être annoncée, mais aussi entendue. Si Carrefour fait une promotion sur le champagne, 10 bouteilles pour une achetée, pas mal, hein? Mais que personne n'est au courant, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Les orthodoxes n'ont donc pas tort de fêter Noël le 6 janvier, car c'est à partir de ce moment que le salut commence à réjouir tous les peuples. Mais cette fête contient également une autre bonne nouvelle, qui est quelque chose que nous savons, mais que nous voyons maintenant à l'œuvre et qui nous rassure, à savoir que Dieu est maître de la création. Regardez donc, il fait naître son Fils sur terre, et pour annoncer cela, il crée une étoile plus lumineuse que toutes les autres. Avouez que c'est la classe. Nous, si nous donnons naissance à un enfant, au mieux, nous envoyons un faire-part à toutes nos connaissances. Et si vous êtes d'une famille royale, vous faites la une des journaux. Mais personne, pour l'instant, n'a créé un astre pour indiquer à la terre entière qu'un nouveau-né avait pointé le bout de son nez. Soyons donc apaisés par cette vérité. Notre Père est maître du ciel et de la terre. Ce qu'il veut, il l'accomplit. Cela doit nous tranquilliser face aux peurs qui peuvent parfois nous envahir lorsque nous contemplons l'état de notre société. Face aux drames qu'engendre la liberté humaine, disons-nous toujours, même si elle semble toute puissante, cette liberté n'est rien face à la puissance de Dieu. Pourquoi la divinité ne l'utilise pas plus souvent, cette puissance? Cela reste un mystère, mais elle est bien là. Notre Père gère tout, et notre univers continue d'être marqué avant tout par son empreinte, et après seulement par celle des hommes. Cela engendre une autre conséquence, à savoir que la création nous dit qui est Dieu et ce qu'il fait. Observez ces mages, il leur suffit de percevoir l'apparition d'une nouvelle étoile pour comprendre que Dieu a envoyé son Messie. Cela paraît franchement fou et nous montre à quel point ils étaient intelligents et avaient une science très pointue. Mais au-delà de leur cas, cela légitime toutes les sciences et tous les métiers, car à travers eux, nous pouvons trouver Dieu, nous pouvons découvrir qui il est et suivre son agir à la trace. Les bergers étaient des paysans, et c'est à travers leur travail qu'ils ont été les premiers juifs à rencontrer Dieu sur terre. Les mages étaient des scientifiques, et c'est à travers leur travail qu'ils ont été les premiers païens à rencontrer Dieu sur terre. Il n'y a donc pas de sous-métier, de mauvais métier ou de mauvaise science. Pour être en présence de Dieu et pour être guidé par lui, il n'est pas nécessaire d'être en prière toute la journée, comme les moines, ou de faire de la théologie à longueur de vie comme les prêtres. Remarquez d'ailleurs que ceux qui passaient leur journée au temple, en prière et en études, les grands prêtres et les scribes, ne sont pas allés adorer l'enfant Jésus. Ils sont donc passés à côté de Dieu. Il n'y a alors qu'un pas pour affirmer que les plus théologiens sont les plus éloignés de Dieu. Un pas que je ne franchirai pas, car les généralités ne sont jamais bonnes, mais les faits relatés par la Sainte Écriture vont souvent dans ce sens. Quoi qu'il en soit, ce que nous devons retenir, c'est que Dieu vient à la rencontre de chacun d'entre nous, non pas malgré nos vies, mais à travers nos vies. En ce qui concerne les bergers, le Saint-Esprit est venu leur révéler la naissance de Jésus à travers leur simplicité, qui était prête à accueillir l'annonce merveilleuse des anges. En ce qui concerne les mages, le Saint-Esprit est venu leur révéler la naissance de Jésus à travers leur intelligence, qui était parée pour comprendre l'annonce mystérieuse de l'étoile. Et en ce qui nous concerne, Dieu vient à notre rencontre à travers nos traits de caractère et à travers nos journées. On peut être viticulteur et travailler en présence de Dieu. On peut être avocate et travailler en présence de Dieu. On peut être caissier et travailler en présence de Dieu. On peut être institutrice et travailler en présence de Dieu. Je vous en supplie, ne croyez pas qu'il faille être prêtre ou religieux pour être en contact permanent avec la divinité paternelle. Ne croyez pas que les prêtres et les religieux sont ses préférés. L'évangile du jour nous indique tout le contraire. Par contre, cela nécessite que vous vous investissiez à fond, comme ce fut le cas des bergers et des mages, dans votre métier. Ne vous contentez pas de pratiquer votre métier, écrivit un jour l'immense compositeur allemand Ludwig van Beethoven. Mais forcez-vous à pénétrer dans ses secrets, car ce sont ces secrets qui élèveront les hommes au divin. Et cela vaut pour toutes les professions. Cela vient fixer en nos esprits, nous ne saurions nous contenter de jouir de la manière bienveillante par laquelle Dieu agit avec nous. Il faut aussi que cette manière bienveillante devienne la nôtre quand nous sommes en contact avec notre entourage. En un mot, il faut que nous honorions la personnalité de chacun comme Dieu notre Père le fait. Et pour cela, nous devons éviter d'écraser les autres. Nous devons bien plutôt les faire émerger. Par exemple, quand votre enfant vous demande de l'aide pour comprendre les règles d'un jeu, ne prenez pas le livret pour le lire et lui en faire un résumé. Mettez-vous à côté de votre petit. Expliquez-lui les termes qu'il ne comprend pas. Prenez tout le temps nécessaire. Mais il faut que la réponse émerge de sa propre intelligence. Alors, lui qui vient d'apprendre à lire, il sera émerveillé de sa propre capacité et fera souvent appel à vous, car il comprendra que vous savez le pousser au maximum de ses aptitudes et faire surgir de lui sa meilleure part. De même, si un ami vous demande de l'aide pour poser du placo, ne le posez pas en 2 minutes, histoire d'achever la chose, mais montrez-lui plusieurs fois le bon mouvement à faire. Demandez-lui de l'accomplir devant vous plusieurs fois, et ainsi, il aura appris à développer sa propre dextérité. En un mot, il faut que notre aide soit la moins pesante possible, que la personne assistée ne se rende presque pas compte qu'elle l'est assistée. Mes frères, nous croyons que la Trinité nous accompagne sur chaque seconde qui passe, n'est-ce pas? Et nous croyons que le Saint-Esprit nous aide en toutes choses pour prendre les bonnes décisions, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'avez pas l'impression de faire les choses toute seule et de ne pas être secouru par le ciel? Si, tout simplement parce que le bon Dieu aime à nous glorifier à ses dépens. Quand on pense à tous ces agnostiques, voire ces athées, qui se battent contre Dieu et qui ont l'impression de vivre sans lui, et pourtant, il continue de les soutenir. Voilà comment nous devons être. Allez, mes frères bien-aimés, je conclus. Cet évangile contient 3 bonnes nouvelles. Tout d'abord, que le salut ne concerne pas seulement les Juifs, mais aussi les païens. Ensuite, que Dieu est maître du cosmos. Enfin, que Dieu est présent à chacun de nos métiers, même s'il semble parfois sans rapport direct avec lui. À notre tour, mes frères, soyons une bonne nouvelle pour ceux qui nous entourent. Montrons-leur que leur vie est sublime, en nous servant de ce qu'ils sont, et de ce qu'ils font, et en s'en servant, si cela est possible, pour les amener à Dieu. Amen.